VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 14 février 2019, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, 5 militaires maliens ont été tués mardi dans 2 attaques distinctes dans le centre du pays.
Et au Niger, 3 personnes, dont 2 gendarmes, ont été tuées hier dans une attaque dans le sud-ouest.
En Côte d'Ivoire, le député Alain Loubognon, un proche de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, recouvre sa liberté.
Au Cameroun, en revanche, Maurice Kamto, le principal opposant au président Paul Biya, a été inculpé et transféré à la prison centrale de Yaoundé.
Ici à Washington, le président Donald Trump et son homologue colombien, Iván Duque, ont discuté hier des efforts pour chasser du pouvoir le président gauchiste du Venezuela, Nicolas Maduro.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, des sources militaires et des autorités locales ont dit hier à l'AFP que 5 militaires maliens ont été tués mardi dans 2 attaques distinctes dans le centre du pays. Des éléments de la gendarmerie de Dialoubé, quittant Mopti pour Dialoubé, ont fait l'objet d'une attaque à l'engin explosif improvisé suivi de tirs nourris, a affirmé une de ses sources à Mopti, siège du gouvernorat. Le bilan est de 3 morts, a-t-on indiqué. Par ailleurs, dans la même région, 2 militaires maliens en patrouille entre Koro et Bankas, près de la frontière avec le Burkina Faso, ont été tués par des assaillants non identifiés, selon les autorités locales.
Et au Niger, au moins 3 personnes, 2 gendarmes et un civil, ont été tués hier dans le sud-ouest lors d'une attaque à Bagaji, un village du département de Dongodouchi, une zone jusqu'ici épargnée par les raids djihadistes. L'attaque a été menée par 5 hommes armés venus à bord de 3 motos, selon les autorités locales, qui ont dit à l'AFP que les forces de défense et de sécurité ont tout de suite engagé des poursuites.
En Libye, le gouvernement d'Union nationale a annoncé que les États-Unis ont mené hier soir une frappe contre Al-Qaïda dans le sud du pays. L'opération coordonnée avec ce gouvernement basé à Tripoli et reconnue par la communauté internationale s'inscrit dans le cadre de la coopération continue et des rapports stratégiques entre la Libye et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, a ajouté un porte-parole qui n'a pas donné plus de détails sur les cibles visées ou sur le résultat de la frappe. L'armée américaine mène régulièrement des frappes en Libye contre Al-Qaïda au Maghreb islamique et le groupe État islamique.
En Côte d'Ivoire, le député Alain Loubognon, un proche du très influent Guillaume Soro, a recouvré sa liberté après 2 semaines de détention. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
C'est un homme libre que l'ancien ministre et député Alain Loubognon a quitté ce mercredi la salle de la cour d'appel pour regagner son domicile. Le 29 janvier, ce député proche de Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, avait été condamné à 1 an de prison ferme pour divulgation de fausses nouvelles et incitation à la violence. Il avait posté un tweet annonçant l'arrestation d'un autre député. La peine a été revue par la cour d'appel. Alain Loubognon écope désormais de 6 mois de prison avec sursis. Ses avocats affirment cependant qu'ils vont se pourvoir en cassation. Maître Afousiata Bamba Lamine.
Pour nous, il est important de pouvoir aller en cassation. On va saisir la Cour suprême parce qu'on estime qu'en réalité, il n'y avait aucun élément qui permettait de condamner notre client. Alain Loubognon, c'est un frère, donc je ne peux qu'être heureuse qu'il soit libéré, mais en même temps, je vous dis, on n'est pas totalement satisfait, nous les avocats, parce qu'on estime que le droit n'a pas été réellement dit jusqu'au bout.
Dans leur plaidoirie, les avocats d'Alain Loubognon n'ont pas manqué de dénoncer l'instrumentalisation de la justice pour régler des différends politiques. Âgé de 50 ans, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports de 2011 à 2015, ancien directeur de la communication des Forces Nouvelles et très proche de Guillaume Soro, le député Loubognon qui avait cessé dimanche une grève de la faim est donc sorti de prison soulagé. Il a aussitôt rendu visite à Guillaume Soro. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Au Cameroun, Maurice Kamto, le principal opposant au président Paul Biya, a été inculpé pour rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie et transféré à la prison centrale de Yaoundé. Le point avec Raissa Girondin.
Maurice Kamto, 64 ans, avocat de renom et ancien ministre, a été présenté avec 26 de ses partisans devant le tribunal militaire. Ils ont été inculpés de rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie. 5 ont été libérés sous caution et 22, dont M. Kamto, ont été transférés à la prison centrale de Yaoundé. Kamto et les autres accusés peuvent encourir la peine de mort, légale au Cameroun, mais qui n'a pas été appliquée depuis plus de 30 ans. Maurice Kamto est arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre 2018, loin derrière Paul Biya, réélu pour un 7e mandat consécutif. Il a qualifié la victoire du président sortant de hold-up électoral et a plusieurs fois appelé à des marches de protestations interdites. Depuis son arrestation le 28 janvier à Douala, Maurice Kamto était en garde à vue dans les locaux d'une unité spéciale de la police à Yaoundé. Son mouvement pour la renaissance du Cameroun affirme que plus de 200 partisans ont été arrêtés en marge des manifestations contre la réélection de Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans. Selon les autorités, 147 personnes sont en détention provisoire et attendent d'être présentées à un juge.
Au Nigeria, les deux principaux candidats à la présidentielle, le président Muhammadu Buhari et l'opposant Atiku Abubakar, ont appelé hier à éviter toute violence et à respecter le résultat des élections de samedi. Le point avec Jean-Roger Bion.
Messieurs Buhari et Abubakar ont signé l'accord passé entre plusieurs autres candidats. Ils appellent leurs partisans à éviter toute violence ou acte qui puisse mettre en danger le déroulement d'élections libres, justes et crédibles et s'engagent à respecter les résultats. Muhammadu Buhari a souligné l'importance de l'engagement citoyen. Son adversaire Atiku Abubakar, ancien vice-président, a appelé la commission électorale et les services de sécurité à rester neutres. Quelques 84 millions d'électeurs sont appelés aux urnes samedi pour élire le président et les députés. 91 partis politiques et plus de 70 candidats sont en lice pour la présidentielle. Les scrutins régionaux sont prévus le 2 mars pour élire les gouverneurs des États et les assemblées locales. Les tensions ethniques, identitaires et religieuses ont souvent nourri des violences électorales dans le pays. Dans l'État du Delta, 5 personnes ont été tuées ce week-end. 3 bureaux de la Commission nationale indépendante électorale ont été incendiés et les cartes d'électeurs ont été distribuées dans le chaos.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Ici aux États-Unis, une proposition de loi visant à éviter une nouvelle paralysie budgétaire pourrait être soumise au vote de la Chambre des représentants dès ce soir. Mais pour entrer en vigueur, ce texte devra également être approuvé par le Sénat avant d'être promulgué par le président Donald Trump. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le président américain s'est déclaré mécontent de l'accord trouvé lundi par des négociateurs démocrates et républicains pour éviter une nouvelle fermeture partielle des agences fédérales ou « shutdown ». Cet accord n'accorde que 25% du financement que Donald Trump réclamait pour construire un mur à la frontière avec le Mexique. Mais le président américain n'a pas dit qu'il refuserait de signer une loi approuvée par le Congrès, laissant entendre qu'il pourrait trouver d'autres moyens de financement. Et il a répété hier qu'il ne voulait pas retomber dans l'impasse budgétaire.
I don't want to see a shutdown. Shutdown would be a terrible thing.
Je ne veux pas avoir un shutdown, ça serait terrible.
Ces déclarations rendent les républicains et les démocrates optimistes sur l'adoption de cette loi budgétaire avant la date butoir de vendredi à minuit.
La Chambre des représentants, contrôlée par l'opposition démocrate, a infligé hier un camouflet au président Donald Trump en adoptant un texte coupant l'assistance militaire américaine à la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite qui combat les rebelles chiites houthis au Yémen. C'est la première fois que la Chambre basse insiste sur les prérogatives du Congrès en matière de déclaration de guerre face à la Maison-Blanche. La mesure doit encore être approuvée par le Sénat qui, avant les élections de novembre dernier, avait adopté un projet similaire. On peut s'attendre donc à un éventuel affrontement entre l'exécutif et le législatif.
Le président Donald Trump et son homologue colombien, Iván Duque, se sont entretenus hier à la Maison-Blanche. Des efforts pour chasser du pouvoir le président gauchiste du Venezuela, Nicolas Maduro. « Nous voulons mettre un terme à cette dictature brutale », a déclaré M. Duque. Exprimant de son côté son mécontentement face à la situation, le président Trump a dit qu'il n'excluait aucune option, tout en refusant de préciser sa pensée, bien que Washington ait déjà dit que l'option militaire n'était pas à exclure. Les États-Unis et plusieurs gouvernements occidentaux ont reconnu l'opposant Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim, comme le leader légitime du Venezuela. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanik Talani.
La société camerounaise d'électricité Eneo annonce des investissements pour 47,3 milliards de francs CFA au cours de l'année 2019. C'est une augmentation de 30% par rapport à 2018. Selon Investir au Cameroun, plus de la moitié de ce montant sera alloué au renouvellement, au renforcement, à la sécurisation et à l'extension du réseau électrique. La société veut aussi diversifier les sources de production en introduisant le solaire. Le gouvernement béninois va réduire de moitié cette année la taxe sur les dividendes des sociétés pour stimuler l'investissement. D'après Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts du Bénin, les investisseurs étrangers ne se verront imposer sur leurs dividendes qu'une taxe de 5%, soit la moitié des 10% habituellement imposés. Ecofin rapporte que cette mesure s'étendrait aux entreprises cotées en bourse qui devraient voir leur taux d'imposition sur les dividendes passer de 7 à 5% dans le cadre d'une stratégie d'incitation des entreprises locales à aller en bourse. Pour terminer, le Gabon vient de bénéficier de 77 milliards de francs CFA auprès de la BAD pour réhabiliter 300 km de conduite du réseau d'eau potable de Libreville et sa périphérie. D'après le gouvernement gabonais, cité par la Tribune, le projet permettra de faire passer le taux d'accès à l'eau potable de 25 à 85% en zone rurale et de 45 à 95% en zone urbaine.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On aura un duel ouest-africain en finale de la CAN des moins de 20 ans.
Oui, Mali-Sénégal, ce sera l'affiche finale de cette CAN U20 Niger 2019. Hier à Niamey, dans la première demi-finale, les Aiglons maliens ont arraché la qualification au bout des tirs au but par 4 tirs réussis contre 3. Le score était de 1-1 entre Maliens et Nigériens à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Écoutons l'entraîneur du Mali, Mamoutou Kanedi Mourlé.
La clé de ce match, c'est le bon Dieu. Tout le monde était engagé, tout le monde était là pour gagner le match. Je suis fier. J'ai été la première équipe à faire la défaite ici et j'ai été la première équipe à être en finale de la Coupe d'Afrique. Que le bon Dieu nous accompagne. Je dis bravo au peuple malien.
Mamoutou Kané était au micro de Siaka Traoré, notre envoyé spécial à Niamey. Dans l'autre demi-finale, le Sénégal a pris le dessus sur l'Afrique du Sud 1-0. Suffisant pour se hisser en finale, l'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par le Sud-Africain Givemore Coupé contre son camp à la 78. Dimanche, les Lionceaux sénégalais disputeront leur troisième finale de suite dans cette compétition, avec l'intention de soulever enfin le trophée après deux échecs consécutifs.
Toujours pas de victoire pour le Raja et l'étoile sportive du Sahel en Coupe CAF.
Oui, les Marocains du Raja Casablanca et les Tunisiens de l'étoile du Sahel sont toujours en quête de leur première victoire. Après leur match nul sur le terrain d'Agadir 1-1 lors de la première journée, les Rajaouis ont encore concédé un match nul à domicile face aux Congolais de l'AS Otoho 0-0. De son côté, après sa défaite à domicile face au CS Sfaxien 0-1, l'étoile du Sahel s'est contentée des matchs nuls au Burkina Faso face à Salitas 0-0. Notre correspondant à Ouagadougou, Salif Kabouré, a suivi cette rencontre. Voici son compte-rendu.
Les Burkinabés enregistrent leur tout premier point des matchs de poule après leur défaite la semaine dernière au Nigeria face à Enugu Rangers par 2-0. Au stade du 4 août, Salitas a surtout péché dans le réalisme. Ladji Koulibaly est l'entraîneur de Salitas.
On a eu trop de problèmes sur les 20 premières minutes, donc l'équipe adverse a pris l'ascendant sur nous au milieu du terrain. Et c'était logique qu'ils créent beaucoup plus d'occasions par rapport à nous. C'est vers la fin qu'on a pu se ressaisir un peu.
L'étoile sportive du Sahel avait les mêmes intentions que Salitas, c'est-à-dire refaire son retard de 0-1 au premier match. Pour Roger Lemaire, entraîneur tunisien, c'est une mauvaise opération.
Ce résultat nul n'avantage personne. Au contraire, je pense que de toute façon, on restera dernier. On s'attendait pouvoir gagner le match. On a eu aussi l'occasion en début de match, mais on n'a pas scoré.
Ouagadougou, Salif Kabouré, VOA Afrique.
On finit avec les résultats de la nuit dernière en NBA, c'est en basketball.
Brooklyn et Cleveland 148 à 139, Milwaukee et Indiana 106 à 97, Boston et Détroit 118 à 110, Philadelphie et New York 126 à 111, Toronto et Washington 129 à 120, Chicago et Memphis 122 à 110.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février bat son plein. Les candidats ont leur programme et les citoyens leurs attentes. En tamas en série sur cette élection, notre correspondant à Dakar, Sédina Bagué, nous parle aujourd'hui des attentes des jeunes qui représentent les deux tiers de la population sénégalaise.
À Dakar, beaucoup de jeunes sont sans emploi et ils espèrent que le président élu va trouver le moyen de mettre fin à la croissance du chômage qui est estimée à près de 15% par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Pour Elef Sadio, le candidat qui sera élu devra mettre fin au favoritisme dans les recrutements.
Dans notre pays, pour qu'on puisse avoir un président qui va donner pour les jeunes du travail, pour qu'on puisse améliorer le secteur du chômage aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes et sans travail. Et il y a des gens qui sont dans des postes et qui n'ont même pas de diplôme aussi. Si tu n'as pas de branlon, tu ne travailles pas au Sénégal.
Pour Momodou, 36 ans, en plus d'amener une solution pour l'emploi des jeunes, le président élu devra également garantir plus de sécurité aux citoyens.
On les a écoutés. On attend aussi sur les candidats qui réagissent sur l'emploi des jeunes, l'emploi des jeunes et la sécurité de ce pays surtout.
Athanas Silva, lui, espère que le casse-tête de l'emploi sera réglé et que le futur chef de l'État pourra assurer de meilleures conditions d'existence aux Sénégalais.
Ce que j'attends des cinq candidats, c'est toujours le travail et essayer de satisfaire les besoins des Sénégalais, de la population qui les a élus pour les cinq années à venir.
De son côté, Serim, 26 ans, estime qu'il y a des acquis à consolider et des choses à prioriser pour les années à venir.
Bon, en général, je peux dire que ça va, ça va quoi, parce que là, j'ai vu beaucoup de réalisations. Mais d'une part aussi, je peux dire que ça ne va pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Donc, vu leur comportement, leur façon de faire et leurs priorités aussi. Parce que je dis que il y a des priorités. Je peux citer un exemple, la terre. On n'en a pas besoin, sérieusement. De moi, à mon avis, on n'en a pas besoin. Parce qu'il y avait d'autres priorités que la terre.
Au Sénégal, les principales attentes des jeunes tournent autour de l'emploi, car des milliers de diplômés sont au chômage ou sont obligés de s'orienter vers le secteur informel pour avoir des revenus décents. Pour les jeunes citoyens rencontrés, le président qui sera élu le 24 février devra régler en priorité le problème de l'emploi. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les professionnels de la radio ont commémoré hier la journée mondiale de la radio sous le thème central « Les radios, vecteurs de dialogue et de paix ». Au Tchad, nous dit André Kotma-Djingar, notre correspondant à Niamena, les radios privées fonctionnent avec beaucoup de difficultés, notamment salariales.
Pour les radios tchadiennes, les temps sont durs. Le président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, Hamad Dieudonné Djonabaï, vient d'effectuer une tournée dans les provinces du Tchad.
Ils ont un seul studio, une seule console, un émetteur, un seul enregistreur. Parfois, les studios ne sont même pas insonorisés. Nous ne parlons même pas de téléphone parce que ça, c'est un luxe. Pas seulement les conditions techniques, les ressources humaines n'existent pas. Parfois, vous trouvez deux ou trois personnes qui n'ont même pas de traitement.
Dikouniga Kautar Lazar, ex-secrétaire général de l'Union des radios privées du Tchad, par ailleurs, directeur de la radio FM Liberté et Diane Niloumal Koïdéré, PDG de la radio Oxygène, énumère aussi au micro de VOA Afrique quelques difficultés qu'ils rencontrent pour le fonctionnement de leur entreprise.
Si on prend la ville de Ndjamena, vous pouvez passer 2-3 jours sans avoir de l'électricité. La chose suivante, c'est l'entretien ou la maintenance de nos dispositifs de diffusion, les émetteurs et les amplificateurs. On n'a pas de techniciens qualifiés pour dépanner ces appareils-là en cas de panne. Il y a cela 2 ans, on était à peu près 38 radios privées. Mais maintenant, il y a beaucoup qui ont fermé leurs portes.
La radio vit de ses propres moyens. On n'a pas de partenaire, donc ce n'est pas facile. On a des problèmes avec notre émetteur. Comme c'est grillé, on nous demande d'envoyer l'émetteur en France. Envoyer ça au labo d'abord et ils vont nous dire ce qu'on veut faire. C'est dur. La nuit, je ne dors pas comme avant parce que je ne peux pas faire tomber la radio.
Rassou Gagué, auditeur de radio locale, connu pour son franc-parler, lance un appel au gouvernement de ramener le fonds d'aide à la presse suspendu il y a 4 ans. En afin de donner une bouquet d'oxygène aux radios privées qui risquent sous peu de fermer leurs portes.
Vous savez, l'aide à la presse ne vient pas. Ça permet même de faire des recyclages pour ces journalistes-là. Parce qu'il ne faut pas rester 5 ans, 10 ans, non. C'est la vraie galère. Les journalistes privés, c'est un combattant qui va à la guerre sans armes. C'est un parcours de combattant.
Pour le président de la AMA, Dieudonné Dionabaï, l'institution qu'il dirige et les responsables des médias sont en pourparlers afin d'adopter une nouvelle stratégie pour amener certains partenaires à accorder des subventions aux organes de presse.
Si vous avez une subvention de 100 millions à partager entre 30 ou 35 journaux, vous avez une soixantaine de radios, vous allez prioriser lesquelles? Voilà la difficulté. Nous sommes en train de réfléchir comment amener les communes qui sont un peu nanties à accorder la subvention à ces radios. Malheureusement, elles ne le font pas. Pourtant, c'est des radios qui leur rendent d'énormes services.
Certains journalistes de radios privées du Tchad sont très mal traités du point de vue salarial. Mais compte tenu de la précarité d'emploi, ils refusent de faire de commentaires de peur d'être virés par leur patron. André Kodmadingar Ndjamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Haïti, confrontée à une instabilité politique chronique, la population proteste depuis quelques jours contre la vie chère et demande le départ du président Jovenel Moïse. Éric Maniraktiza a joint à Port-au-Prince un acteur de la société civile engagé dans le développement social, Louino Robillard.
Il y a des tensions, il y a des manifestations ici, pas seulement à Port-au-Prince, mais c'est au pays. Les rues sont bloquées, il y a des pneus qui enflamment partout dans le pays. C'est vraiment triste, l'école ne fonctionne pas, l'administration publique ne fonctionne pas, il n'y a pas de transport public, le pays est fermé.
Et qui sont les organisateurs de ce mouvement?
Le mouvement vient de l'opposition. Pour le moment, on peut dire que c'est la population haïtienne ou une partie de la population haïtienne. C'est beaucoup, beaucoup de gens. Des gens qui demandent la baisse de la vie est trop chère. Des gens qui demandent le départ du président. Il y a la communauté internationale haïtienne, le non-corps groupe qui demande dialogue. Et même là encore, beaucoup de gens de la population refusent de dialoguer. Puisque dialoguer en Haïti, c'est toujours un cercle vicieux là.
Jovenel Moïse a été élu justement pour cet agenda.
Je pense qu'il y a vraiment une méfiance qui développe autour de l'État haïtien et entre la population. Et M. Jovenel Moïse, lorsqu'il était en campagne, il a fait beaucoup, beaucoup de promesses. Et malheureusement, il ne peut pas atterrir avec les promesses. Maintenant, c'est très mélangé. Ce n'est pas une question de l'opposition en ce moment-là. À ce qui se passe en Haïti, c'est presque une révolution populaire. C'est vraiment, vraiment compliqué ici à Port-au-Prince.
Il y en a qui disent que le président Jovenel Moïse a voulu s'attaquer à la corruption et qu'il y a eu une coalition des gens qui étaient visés et qui ont organisé ce mouvement.
Exactement. Exactement. Il y a la corruption qui joue un rôle des en faveur de Jovenel Moïse.
Est-ce qu'on peut dire que le président est en difficulté actuellement? Dans quelle mesure il peut renverser la vapeur, maîtriser son mouvement de contestation et remettre les choses en ordre?
Il ne parle pas depuis 6 jours. On ne pense pas que sa parole peut changer vraiment les choses s'il ne donne pas la démission. Et il y a beaucoup de réunions en ce moment, beaucoup, beaucoup de réunions, mais les rues sont toujours bloquées. En ce moment-là, on parle, il y a manifestations partout dans le pays, dans le nord au Cap-Haïtien, à Port-au-Prince, dans toutes les coins de la capitale, dans le sud. C'est compliqué. On ne sait pas ce qui va passer dans les prochains heures. Il y a les ambassades qui sont en train de vaciller les ressortissants. C'est difficile et compliqué.
Joint hier à Port-au-Prince, Louino Robillard, un acteur de la société civile haïtienne.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, l'élection présidentielle de 2020, c'est dans un peu moins de 2 ans. Chez les démocrates, 9 personnalités ont déjà soit annoncé leur intention de croiser le fer avec le président Donald Trump, soit mis en place des comités exploratoires pour étudier la possibilité de se présenter. Et plusieurs autres démocrates bien connus pourraient venir grossir les rangs. Reportage de Jim Malone, repris ici par Abdurrahman Dia.
La liste continue de s'allonger. Dernière candidature en date, celle de la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar. Elle espère se créer une base dans le Midwest.
I don't
Je n'ai pas une machine politique. Je ne viens pas du monde des riches. Mais j'ai ceci, la passion.
La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, s'est aussi officiellement lancée dans la course. Elle veut combattre les inégalités économiques.
C'est le combat de notre vie, le combat pour bâtir une Amérique où les rêves sont possibles et une Amérique qui marche pour tous.
Un autre qui s'est lancé tôt dans la course, le sénateur Cory Booker du New Jersey, déjà en mode campagne dans l'Iowa, avec un message d'unité. Plusieurs femmes et personnes de couleur sont sur la ligne de départ, faisant de cette course à la nomination du Parti démocrate l'une des plus diversifiées de l'histoire.
Il y a de la diversité, ce qui reflète ce que le Parti démocrate est aujourd'hui.
La majorité des candidats démocrates ont des points de vue très progressistes sur l'économie, l'environnement et les questions sociales. Selon l'analyste John Fortier, certains d'entre eux vont se détacher rapidement.
Je pense que les principaux candidats, ceux qui vont bien s'en sortir, seront ceux qui auront des bons résultats, soit au sein de la base progressiste, qui s'oppose à Donald Trump, soit au sein de la communauté afro-américaine.
La liste des candidats est certes diversifiée, mais les électeurs démocrates ont le même objectif, nous dit Larry Sabato de l'Université de Virginie.
When you get right down to it, what's the most important thing to Democrats?
En fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important pour les démocrates? En partant de ce que j'entends, ils veulent choisir un candidat qui a le plus de chances de battre Donald Trump.
Le président Trump lance déjà des piques aux candidats démocrates.
Ils sont en train de devenir le parti du socialisme, de l'interruption des grossesses avancées, des frontières ouvertes et du crime.
D'autres candidats potentiels devraient bientôt annoncer leur décision. C'est le cas de l'ancien vice-président Joe Biden, le sénateur Bernie Sanders ou de Beto O'Rourke, candidat malheureux au Sénat l'an dernier.
Raissa Girondin avec vous, en plein débat sur l'année du retour 2019 lancée par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, Washington Forum braque ses projecteurs sur la diaspora africaine. L'initiative du gouvernement ghanéen est-elle une bonne démarche pour inciter la diaspora au retour? Pourquoi décide-t-il de rentrer? Comment faire revenir les compétences et les capitaux des Africains installés hors du continent? Reconstruire au pays nécessite-t-il de retourner ou bien faut-il se faire de l'étranger? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Oh,
aujourd'hui. VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.